Madame Julien, la guerre de Cent Ans est terminée. Et pour illustrer la période de paix que va évoquer Monsieur Julien aujourd'hui, quelle musique avez-vous choisie ?
Eh bien, pour marquer cette période de renaissance, j'ai choisi de la musique de danse du XVe siècle, et plus précisément, des branles gais et entraînants.
Monsieur Julien, après la guerre de Cent Ans qui a fait de grands ravages dans notre région, vous allez aujourd'hui nous parler de la renaissance de la ville de Saint-Onin et de la campagne qui l'entoure.
Oui, avant de parler des conditions de cette renaissance, de ses caractères, vous me permettrez de présenter ici quelques réflexions de portée générale et qui me sont venues à l'étude et à la préparation de cette émission. Les guerres jalonnent au cours du temps l'histoire de l'humanité, tout le monde le sait. Leurs péripéties, les actes de leurs protagonistes, les hauts faits de leurs héros ou prétendus tels, encombrent la mémoire des gens, c'est le moins qu'on puisse dire, et les manuels scolaires. Nul n'ignore Jules César, ni Napoléon, mais que sait-on de tel ou tel philosophe, savant, architecte ou poète, dont les inventions et les travaux ont aidé les hommes à progresser vers une vie meilleure. Les historiens de tous les temps se sont complus, y compris notre chroniqueur local dans le livre des coutumes, à relater avec minutie la chronique de ces conflits meurtriers et de leur cortège de ruines, de haine et de souffrances. On ne saurait pourtant, de façon simpliste, taxer tous ces érudits d'un appétit morbide pour des événements tragiques. C'est que les guerres sont de grande importance dans la vie de l'humanité. Par la violence qu'elles libèrent, les guerres provoquent une rupture dans l'équilibre social difficilement établi, et elles engendrent inévitablement un nouvel ordre de choses. Après une guerre, c'est bien connu. Rien n'est plus comme avant. Et il en est ainsi de la guerre de Cent Ans, après laquelle le visage de notre ville et de sa région, son administration, les conditions de vie sociale et économique, l'éthique individuelle même, se trouvent profondément modifiées.
Monsieur Julien, après cette terrible guerre de Cent Ans, je suppose que notre région est très dévastée et qu'il va falloir s'attaquer à la reconstruction. Alors si vous voulez, commençons par la campagne. Dans quel état étaient nos campagnes après cette guerre ?
Les campagnes étaient dans un état de désolation difficilement envisageable. Mais cependant, si l'on fait un effort et que l'on réfléchisse à ce qu'a pu être la vie des paysans du plateau de Servanac et du plateau du Bosc pendant les années de la fin du XIVe et les 20 premières années du XVe, qui voyaient passer et presque quotidiennement des troupes de routiers, ces fameux routiers, ces bandits au fond de grands chemins, qui se nourrissaient sur le pays. Ils arrivaient dans une ferme. Ils avaient besoin de viande, ils saisissaient les animaux, les poules, les bœufs même, dépouillaient par conséquent le pauvre paysan. Et pensez aussi que cela ne se faisait pas toujours avec douceur. Parce que si le paysan, un peu trop rebelle, manifestait son opposition, eh bien lui aussi, il était emmené, quelquefois cloué au sol par un coup de dague ou d'épée. Et ne parlons pas du sort qui était réservé aux femmes dans les fermes et dans les campagnes. Donc c'était un état de désolation totale. Si des récoltes étaient si on avait préparé le terrain pour du blé ou de l'avoine, les routiers passaient là à travers, foulaient les blés, les avoines, les fourrages. Enfin, on pourrait pendant des heures essayer de dresser un tableau sinistre de ces campagnes. Alors évidemment, devant cette situation qui durait, on peut supporter ça une fois en passant, mais quand on voit que ça se reproduit, qu'après des périodes de calme, une année sans routiers, il y en a d'autres qui arrivent, puis quand les routiers seront partis, ce seront les troupes royales qui descendront pour reconquérir la Guyenne, et ceux-là non plus ne sont pas tendres, et il en passe souvent ici, puisque Saint-Antonin étant une ville de garnison, toute armée qui descend envoie un ou deux régiments à Saint-Antonin pour y tenir quartier pendant un jour pendant deux jours, puis ces gens repartent. Ils se dirigent vers Agen, vers Cahors, vers la Guyenne donc, et ma foi, ils traversent la campagne. Et on n'a pas besoin de dire qu'ils ne se gênent pas. Les soldats d'aujourd'hui vont vite avec leurs camions, on ne les voit plus beaucoup, mais les soldats de l'époque traversaient le pays et ça, leur passage se marquait bien. Donc on peut dire qu'à la fin de la guerre de Cent Ans, tout à fait la fin, 1453, eh bien les campagnes de notre région sont en général dans un état total d'abandon. Pourquoi ? Eh bien parce que les paysans, à la longue, ont fini par se lasser d'être sans cesse menacés, pillés. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Eh bien, ceux qui l'ont pu sont partis. Carrément, ils sont partis vers des cieux plus cléments. On pense qu'ils sont allés dans le Bas-Languedoc, et dans la région de Toulouse, de Narbonne, Montpellier. Ainsi, de nombreuses familles ont quitté le pays et ont émigré définitivement. Mais il y en avait beaucoup d'autres qui avaient des parents en ville, cousins ou frères ou autres, et qui sont venus se mettre à l'abri dans la ville, qui était un asile sûr grâce à ces fortifications redoutables. Elle n'a jamais été reprise après 1380, et ils sont là. Ils sont là, et s'il y a une année tranquille, bon, ils repartent vite faire un peu de blé, un peu d'avoine. Et il faudra attendre donc que tout soit pacifié pour qu'ils puissent reprendre leurs fermes, leurs hameaux. Leurs maisons en général ont été détruites, la plupart ont été brûlées, mais ce n'étaient pas des maisons de grandes conséquences, c'était comme je l'ai dit dans une précédente émission, à l'exception des grandes fermes que possédaient les bourgeois, c'était des masures faites en pierre sèche, couvertes de chaume ou de tuiles, mais enfin, la reconstruction là, pour ces maisons, n'a pas présenté de gros problèmes pour les travailleurs de la campagne. Et simplement, on évitera de reconstruire de nombreuses petites chapelles et églises dont le nom subsiste aujourd'hui mais qui ont complètement disparu et dont on est incapable maintenant de dire où elles étaient exactement, comme tu le sais bien Patrick, près de chez toi Saint-Alose, le coin qui s'appelle Saint-Alose, il y avait une église, on ne sait plus où elle était, et à Saint-Martin-de-Lézignac entre Joigny et Le Bosc, il y avait une église, l'église de Saint-Martin, on ne sait plus où elle était, et sur le plateau d'Anglard il y avait une église qui s'appelait Saint-Jean d'Anglard, on ne sait plus où elle était, moi-même j'ai cherché, je ne peux pas trouver où elle était. On ne reconstruira dans la campagne que les églises de fort amont qui avait une importance considérable, qu'il fallait nécessairement reconstruire pour le culte, et on ne rebâtira que Servanac, Montpalache et Peyrègue, cette église de Peyrègue qui n'est plus aujourd'hui qu'une ruine.
Vous nous aviez dit, monsieur Julien, que dans une précédente émission, c'était la campagne qui amenait directement à la ville de Saint-Onen les subsistances.
Oui.
Puisqu'il n'y avait pas beaucoup de commerce entre villages. Oui. Comment s'est passé cette période à la fin de la guerre Cent Ans où il n'y avait plus de paysans pour nourrir la population?
Oui. Enfin, il ne faut jamais faire les choses dans l'absolu. Il ne faut pas dire qu'il n'y a plus de paysans. On le dit comme ça par simplification abusive. Enfin, on a toujours eu des moments de répit. Mais il est sûr que les années de violence excessive, il a pu passer plusieurs mois, donc plusieurs mois de troubles qui ont compromis complètement une récolte. Et là, il y a eu, les livres d'archives en rende compte, il y a eu des années de disette et de famine, dont on a à peine aujourd'hui à imaginer la cruauté. Cependant, il ne faut pas négliger une chose, c'est que par chance, notre ville, qui était bien organisée depuis le XIIe siècle, avec un système d'administration qui obligeait, c'était leur devoir aux consuls, qui obligeait les consuls à pourvoir à la subsistance de tous. On sait, je l'avais dit déjà, qu'il existait une organisation qui s'appelait l'Ascaritas, c'est-à-dire l'assistance publique, dont étaient responsables 4 personnes prises dans le conseil de ville et qui devaient se débrouiller pour faire face à ces moments difficiles. Oh, je ne dis pas qu'ils faisaient face pour tout le monde. Il y a eu des morts de famine et de disette. Nous avons vu de combien la population avait diminué à Saint-Antonin. Hein. Elle avait diminué pour la peste, la guerre, mais aussi la disette et la famine. Mais ces consuls se débrouillaient. Et alors, il y a toujours moyen de s'en sortir. Ils allaient acheter du blé en Languedoc, comme on disait, à Gaillac ou à Albi, sur les fonds de la commune, et ce blé était ensuite redistribué pour qu'il y ait au moins du pain à manger.
Oui, et puis ces paysans qui quittaient Saint-Antonin pour s'installer à la campagne, c'était aussi des personnages assez pauvres. Ils avaient donc très peu de subsistance, je pense, pour attendre leur première récolte.
Alors là, il est inutile de dire qu'ils ont dû passer une mauvaise année. Et que quand on raconte que des paysans se sont nourris de racines, de végétaux, et bien certainement dans ces périodes-là, beaucoup de paysans, de pauvres gens, et qui avaient plutôt l'air de bêtes que d'hommes, se sont contentés pour survivre de nourriture prise dans les végétaux qui poussent spontanément. Je ne sais pas ce qu'ils pouvaient manger, mais quelquefois ils se nourrissaient d'herbes, tout simplement. Ce qui devait entraîner des maladies de dysenterie ou autre.
Oui.
Donc terrible la situation dans les moments de la fin de la guerre de Cent Ans, elle a dû être terrible.
Oui, et on note quand même une certaine solidarité entre les personnes.
Mais ce qu'il faut signaler, il y a eu là quand même solidarité, et je crois que ça c'est le propre de l'homme, que dans les grands moments difficiles, une solidarité, la solidarité existe. Et même aujourd'hui, on le voit bien, puisque on dit toujours qu'aujourd'hui c'est l'individualisme forcené, que chacun ne pense qu'à soi. Nous avons le bel exemple, enfin le bel, entre guillemets, bel exemple, l'inondation de 1981. À la suite de cette catastrophe, on a bien vu que, même ici à Saint-Antonin, il y a eu un mouvement général de solidarité des habitants envers ceux qui avaient été éprouvés par les inondations.
Oui, c'est un peu le côté positif des catastrophes.
Oui, si on peut dire, alors là, mais ne soyons pas malthusiens.
Oui, donc à la fin de cette guerre Cent Ans, la campagne est complètement dépeuplée. Et Saint-Antonin, comment est notre ville?
Saint-Antonin, ça n'est assez bien tiré, si on peut dire, exception faite des périodes de peste. Pourquoi? Parce que j'ai déjà dit que la ville de Saint-Antonin était une ville forte et qu'on avait passé 9 mois, souvenez-vous-en, en 1363, à renforcer les fortifications. Donc, la ville était à l'abri et on n'a pas tellement souffert. Et la ville n'a jamais été reprise, je me répète en disant cela, mais finalement, ça a été un havre de sécurité, sinon de paix. Et là, la vie a continué, bien sûr. Il y a bien eu des tentatives de prise de la ville, il y a bien eu des dégâts commis aux maisons ou autres, mais enfin, on ne peut pas dire que ça a été la désolation que l'on a connue dans les campagnes. Cependant, du fait de la peste, de nombreuses maisons avaient été abandonnées et étaient, pour la plupart, tombées en ruine. Et il y avait, ça et là, des noyaux de maisons à reconstruire. Et c'est drôle, on le constate ça après toutes les guerres, je crois que personne ne me démentira, ou après toutes les catastrophes. Il semble qu'on ne va pas s'en relever de cette catastrophe ou de cette guerre, et une sorte d'ardeur vous prend, et on a une rage à reconstruire, à remettre en état, aussi intense que la rage que d'autres avaient mis à détruire. Et c'est alors que naît là, à partir de 1450, 55, 60, une frénésie de construction dans la ville. Et notre ville aujourd'hui porte les marques de cette époque de construction acharnée ou de reconstruction. D'ailleurs, on va maintenant, et c'est ce qui marque bien cette étape, on va construire ou reconstruire les maisons avec un style nouveau, qui sera tout à fait différent du précédent. Le précédent était, vous le savez, le style roman. Vous reconnaîtrez très bien les maisons qui ont été construites ou reconstruites après la fin de la guerre de Cent Ans, c'est-à-dire dans la seconde moitié du XVe siècle, en examinant leurs façades. Elles se caractérisent par deux choses, à mon avis, parfaitement significatives. Au rez-de-chaussée d'abord, les arcades à arcs brisés romanes disparaissent. On fait des arcades plus tendues d'ouverture, avec un arceau de courbure plus molle. C'est plus gracieux, c'est plus vaste, c'est plus, peut-être, c'est moins rude d'aspect, c'est moins piquant. Je vous citerai tout à l'heure quelques maisons qui possèdent des arcades de ce type et vous les reconnaîtrez très bien. Aux étages, maintenant, au premier et au second, on innove. Les ouvertures ne sont plus ces très belles ouvertures qu'on appelait les fenêtres géminées, avec leurs petites colonnettes à chapiteaux sculptés et deux petits arcs très mignons. Et ce sont des ouvertures plus grandes, en général, plus larges, un petit peu plus hautes, sans plus, mais rectangulaires. Ce sont des baies qui sont coupées dans le sens de la hauteur et dans le sens de la largeur par une croix de pierre, ce qu'on appelle des meneaux. Ce sont les fenêtres à meneaux que vous voyez partout dans les rues. Promenez-vous, regardez-le bien. Et alors, pourquoi ? Ben ça, c'est peut-être parce que c'est la mode du jour, mais aussi c'est une question pratique. Vous voyez, il y a toujours un progrès technique après les guerres. Les fenêtres géminées avec colonnettes, vous savez qu'elles étaient très difficiles à fermer. Et qu'en général, d'ailleurs, ça va vous paraître surprenant, on ne les fermait qu'avec des bouts de toile ou quelques panneaux de bois appuyés contre les pierres. Si vous essayez aujourd'hui de mettre une menuiserie contre des fenêtres géminées romanes, vous aurez beaucoup de mal à les faire plaquer, à faire plaquer la menuiserie parfaitement dans l'embrasure. Tandis qu'avec des fenêtres à meneaux, on peut mettre des menuiseries rectangulaire, bien dressée, qui cale bien dans l'embrasure. En même temps, on pourra fermer enfin la fenêtre au froid de l'hiver, à la chaleur de l'été. Et puis autre chose, on a besoin de menuiseries convenables, de menuiseries bien rectangulaires, bien faites, parce que c'est l'époque où on commence à utiliser la vitre. Mais sous la forme de petits morceaux de vitraux qui seront disposés joliment. Il en reste quelques petits bouts de ces vitraux. Tenez, vous en trouverez un reste au deuxième étage de la maison dite du roi en cours de restauration.
Oui, et puis il y a aussi beaucoup de fenêtres géminées romanes qui, même sans être démolies, sont transformées, je crois.
Ah ben oui, alors là, celui qui avait une belle façade romane, il veut faire comme le voisin. Ça, c'est pas étonnant, c'est de tout temps. Alors, comme il trouve que le voisin a fait une fenêtre à meneaux, eh ben lui, il détruit sa fenêtre géminée romane et il met à la place une fenêtre à meneaux. Vous trouverez ça dans beaucoup de maisons à Saint-Antonin. Je vous signale particulièrement la maison Aramburu dans la rue droite, à Ramburu dans la rue droite, en face de l'atelier de Claude Nicot. Vous regarderez au deuxième étage, et là vous avez un bel exemple au deuxième étage, il y avait trois fenêtres géminées à colonnettes, et bien le propriétaire de l'époque a fait placer deux fenêtres à meneaux, il a oublié de remplacer la troisième fenêtre romane. Ça me paraît très, très intéressant ça.
Monsieur Julien, on s'aperçoit donc qu'à cette époque-là, les hommes cherchent davantage de confort.
Oh oui, ça c'est net. C'est net. Et ce confort va se manifester à l'intérieur de la maison. Mais en entrant dans la maison, mais pour entrer dans la maison, il faut passer par la porte. Et c'est un autre détail aussi qui caractérise les façades de la fin du XVe siècle, c'est l'architecture de la porte d'entrée. Nous avons la chance d'en avoir à Saint-Antonin de nombreux exemples. La porte d'entrée, qui était toute petite avant, très étroite et très basse, surmontée d'une petite lucarne de pierre, encadrée de pierre, va être remplacée par ces portes larges, surmontées d'un linteau en accolade, dont le plus bel exemple, à mon avis, se trouve au fond de la rue Guillaume-Peyre, dans la maison de Monsieur et Madame Marion, dont la façade, d'ailleurs, vous pouvez l'observer, a subi elle aussi le traitement de mise à la mode dont j'ai parlé ci-dessus. Souvent, le linteau de cette porte, linteau en accolade, est garni d'un écusson, dont le plus bel exemple se trouve aussi dans la rue Guillaume-Peyre, à gauche en descendant, dans l'immeuble occupé maintenant par la pizzeria. Cet écusson finement sculpté comporte des inscriptions. Cette inscription est toujours la même en général, IHSM. C'est un signe d'une nouvelle consécration, si on peut dire, d'une consécration de la maison aux protecteurs que sont Jésus et sa mère Marie. Jésus-Maria. C'est bien la mode aussi au XVe siècle. Dans les livres de contes, par exemple, la première page est surmontée d'une croix. Au haut de la première page, vous avez une croix. Et au-dessus de la croix, Jésus Maria. Alors, on le trouve aussi sur la maison. C'est la protection de la maison. Mais entrons dans la maison. Et pour monter à l'étage, qui est l'étage d'habitation, on n'habite jamais au rez-de-chaussée, et qui est l'étage d'habitation, on va y monter maintenant par un escalier de pierre. C'est l'apparition de l'escalier de pierre et en général de l'escalier tournant.
Oui, parce que avant ces escaliers, comment faisaient les hommes pour monter aux étages?
On y montait aussi, bien sûr, mais d'une façon très sommaire, par un escalier en général de charpente en bois, d'une seule volée raide qui allait d'un étage à l'autre. Et l'escalier de pierre, c'est caractéristique du XVe siècle. Il y en a quelques exemples encore dans Saint-Antonin et on peut les deviner dans la façade parce qu'on les éclaire en général par de petites lucarnes aussi, très visibles sur les façades. On entre dans les pièces, dans la grande pièce, il subsiste toujours la grande pièce, même dans les maisons les plus modestes. Mais là je parle surtout des maisons riches. On arrive donc dans la grande salle, salle de réunion, salle de repas, chambre à coucher aussi. Et on voit se dresser dans le mur principal, au milieu du mur principal, un véritable monument de pierre aussi. C'est la cheminée.
Oui, là aussi, oui, on peut être étonné que les cheminées ne soient pas apparues avant cette époque-là.
Oui, et bien avant cette époque-là, le chauffage des salles se faisait essentiellement par des brasereaux posés au sol. Exemple, le musée actuel, vous pouvez toujours chercher la cheminée. Il n'y en a jamais eu. On a toujours chauffé comme on pouvait avec de la braise. Maintenant, la cheminée devient le foyer, le centre de la pièce. Foyer pour faire du feu, mais foyer aussi pour la réunion de la famille. Et nous avons à Saint-Antonin la chance, chance qu'a mise en évidence Viollet-le-Duc, il faut bien lui rendre cet hommage, de posséder les plus belles cheminées, enfin, de très belles cheminées du XVe siècle, de deux types. Celles qui sont entièrement en pierre, avec aussi le manteau en pierre. Et puis celles qui sont en pierre pour les jambages, mais dont le manteau est en staff. C'est-à-dire en plâtre moulé, avec des décors un petit peu excessifs comme détail, et dont l'exemple le plus significatif se trouve à l'actuelle maison du roi. Voilà deux joyaux de la fin du XVe siècle, qui sont des joyaux de style gothique, et qui préparent les arts plus doux, les formes plus douces de la Renaissance.
Oui. Alors, Monsieur Julien, vous nous aviez dit que après cette guerre, les habitants de Saint-Antonin étaient dans une grande misère. Mais pourtant, on s'aperçoit qu'il y a eu de grands travaux de fait.
Oui.
Est-ce qu'il n'y avait plus de pauvres après cette guerre?
Ne généralisons pas. Toujours pareil, bien sûr. On ne voit toujours que le dessus du panier, hein, aussi bien dans les légumes que dans les habitants. Il y avait de nombreux pauvres, bien entendu. Et ces pauvres-là ont beaucoup souffert. Souffert de tout. De la misère, de la peste, de la guerre, de tout ce qu'on voudra. Mais eux aussi, ils sont là. Il faut qu'ils vivent, il faut qu'ils reconstruisent. Et c'est alors qu'apparaît cette méthode de construction qu'on peut appeler les HLM de cette époque-là. Il faut qu'eux aussi rebâtissent leur maison quand elle a été abandonnée. Ils n'ont pas les moyens de la bâtir en pierre, bien sûr. Alors ils bâtiront sommairement un rez-de-chaussée en pierre. Et puis l'étage, ils l'édifieront avec ce procédé nouveau pour l'époque qui s'appelle le colombage. le curundat, on disait à Languedoc à cette époque-là. Et les murs sont constitués par une sorte de charpentage de bois entre les éléments duquel on remplit les vides à l'aide de trois choses, au choix, du torchis fait avec de la boue et de la paille, de la brique, ou bien alors du tuf, que nous appelons ici des truffés. C'est une pierre calcaire très légère qui a été utilisée, et ça c'était le luxe un petit peu, le tuf, parce qu'il se taillait, il ressemblait à la pierre. Nous avons une belle maison faite en tuf qui se trouve dans la rue droite, à main gauche, avant d'arriver sur la place Raymond Jorda. Cette maison appartient actuellement à la commune et elle a été récemment restaurée. Voilà ce que les pauvres avaient le pouvoir de se construire pour eux-mêmes. Et les riches, ceux qui habitaient les riches maisons de pierre, ne négligeront pas aussi une source de revenus importante. Bien souvent, ils surélèveront d'un étage leur maison et ils le surélèveront à destination de locataires pauvres. Et c'est pourquoi dans des maisons, de très belles maisons à façade de pierre bien appareillées, vous voyez un dernier étage qui a été ajouté au XVe siècle et qui est en colombage, lui aussi, avec du torchis et des bois. C'est l'exemple typique. L'exemple typique, c'est la maison du roi, et qui a ainsi un étage supérieur à la destination de location pour pauvres gens.
Oui, et puis vous nous avez parlé de la reconstruction des églises à la campagne.
Oui.
À Saint-Antonin, comment s'est faite cette reconstruction?
Bon, ben, toutes les églises ont suivi le mouvement, si on peut dire. Bon, ne parlons pas de l'abbaye qui était un peu indépendante et qui n'avait rien à voir avec les consuls. L'abbaye s'administrait toute seule. Bon, nous ne savons pas très bien les travaux qu'on y a effectués, mais on en a effectué à cette époque-là. Et c'est sans doute à cette époque-là qu'a été sculptée la clé de voûte qui se trouve dans la sacristie actuelle de l'église et qui représente la barque de Saint-Antonin. Je pense, du moins. Mais les consuls ont participé à la réédification de l'église des Cordeliers. Les Cordeliers avaient, pendant la guerre de Cent Ans, leur couvent qui n'était pas intramuros, il n'était pas à l'intérieur de la ville, il était en dehors de la ville, là où est actuellement le magasin Unico. Et c'est pourquoi maintenant nous nous expliquons qu'on ait découvert, quand on a construit ce magasin Unico, une clé de voûte d'église, très belle d'ailleurs, et que nous pouvons dater, puisque nous savons qu'en 1465, la ville a versé au Cordelier la somme énorme, entre guillemets, relativement énorme, de 10 livres pour la reconstruction de leur église. Donc la clé de voûte que nous avons découverte l'année dernière, elle est de cette époque-là, 1465. Enfin, les carmes aussi, mais les carmes, eux, n'étaient pas en dehors de la ville, ils étaient à l'intérieur de la ville, et ils étaient dans l'enclos des jardins de Lastic, au-dessous de la maison de Madame Freys, ils avaient là leur couvent. Alors ils l'ont réparé, et surtout ils ont construit ce qui leur manquait le plus, un cloître. Et à eux, on leur a versé 7 livres pour reconstruire le cloître. Et enfin, et les consuls de ville ont éprouvé le besoin, eux aussi, de se munir d'un perfectionnement moderne pour l'époque, une horloge. Et nous le savons parce qu'ils ont payé en 1465 le salaire del que gubernavo lo reloce, c'est-à-dire de l'homme qui était chargé d'entretenir et de faire fonctionner l'horloge de ville. La tour du musée n'était pas comme elle est. Cette horloge était placée dans une belle fenêtre géminée au deuxième étage. Le cadran était sur la façade et on avait, pour placer le cadran, détruit la fenêtre géminée. Et puis au-dessus de la tour, qui était carrée, on avait placé la cloche de ville qui va régler la vie de tous les habitants désormais.
Oui, et avant cette horloge, qu'est-ce qui réglait le temps à Saint-Denis?
Ah oui, avant les horloges, ça tout le monde le sait, c'était les cloches des églises qui sonnaient matine, nonne, vêpres, et on savait que, par exemple, quand on avait une fête chômée, mettons l'Ascension, eh bien, on savait que le travail devait cesser quand les cloches des églises des Carmes, des Cordeliers, de l'abbaye avaient sonné les vêpres de la veille de l'Ascension. C'est-à-dire qu'on faisait le départ en congé, non pas le jour même, mais la veille à partir de la sonnerie des vêpres.
Thank you.
Monsieur Julien, c'est maintenant l'horloge de la maison communale qui règle la vie à Saint-Antonin. Et cette maison communale, est-ce qu'elle a subi des modifications ?
Au point de vue architecture, elle n'en a subi aucune. Elle est encore aujourd'hui, vous voyez, comme elle était à la seconde moitié du XVe siècle, comme elle était quand les consuls l'ont achetée pour être maison de ville. Mais il y a eu des changements plutôt dans l'administration communale. C'est ainsi que l'on constate, par le livre de comptes toujours de 1465, qui sert de référence à tout cet exposé, que les consuls ne sont plus que 6, alors que jusqu'à présent, ils étaient 12. Et cela m'a surpris. Pourquoi passer de 12 à 6? Alors, j'y vois plusieurs raisons, enfin, une qui me paraît plus importante que les autres. C'est parce que l'appauvrissement qu'a entraîné nécessairement la guerre de Cent Ans dans de nombreuses familles fait que le nombre de bourgeois susceptibles de consacrer leur temps, leur vie et leur argent à l'administration de la commune deviennent plus rares. Et que par conséquent, on a du mal à en trouver 12. Alors 6, c'est déjà suffisant, pense-t-on. D'autant que, dans le même livre de comptes, on s'aperçoit que ces 6 consuls sont accompagnés de 70 conseillers de ville. C'est énorme, alors qu'il n'y en avait que 25 autrefois. On a donc réduit le nombre des consuls à 6, mais on a augmenté le nombre de leurs conseillers. La gestion démocratique, en principe, le caractère démocratique de cette gestion, semble préservé. J'y vois un autre argument au fait que j'ai avancé, que c'était une question de richesse qui faisait qu'on avait réduit le nombre des consuls, c'est que maintenant, les consuls ne sont plus capables de se payer leur robe consulaire. C'est la commune, sur les fonds de la commune, qui paie la robe consulaire des consuls. Enfin, je pense qu'il y a une autre raison. Dans toute organisation, on constate ceci. On décide toujours, les hommes décident toujours au début, qu'ils vont se mettre ensemble pour gouverner. Et alors on fait un gouvernement collectif. Et petit à petit, on s'aperçoit que le gouvernement collectif se réduit pour devenir un gouvernement personnel.